Vous écoutez
RMC.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
Mobilisation Générale, la dernière heure, c'est jusqu'à 13h. C'est tous les samedis et tous les dimanches, émission qui s'achèvera demain à la veille du déconfinement. Et oui, car à partir de la semaine prochaine, retour des grandes gueules du sport entre 11h et 13h. Et avant cela, entre 10h et 11h, avec Benoît Boutron et avec Pierre Amiche, nous vous proposerons un nouveau programme, le RMC Sport Game, qui habituellement se déroulait à la montagne. Ben là, on descend au niveau de la plaine. Il aura lieu en studio tous les samedis et dimanches matin, une sorte de petit frère du Kikadi sous la forme d'un quiz de culture sportive. Je ne vous en dis pas plus, mais ça devrait valoir le coup d'écouter ça. Surtout, vous ne ratez pas la première, ce sera samedi prochain entre 10h et 11h. D'ailleurs, certains ont intérêt cette semaine à s'entraîner dur, hein, parce qu'ils seront avec nous le week-end prochain et devront répondre à toutes les questions. Alors, c'est vrai qu'ils sont très très forts au Kikadi, enfin, pas tous, mais pas mal quand même. Stephen Brun, Denis Charvet par exemple, vont devoir réviser leur culture générale du sport. Ouais. Hein, ça va demander une semaine de boulot, les gars. Hein.
Ah, j'ai fait le finaliste du kickathlon hier.
Ah, le kickathlon. Ah ouais,
c'est
pas mal.
C'est nouveau, ouais, c'est inventé par un certain Eric Dimeco. Et voilà, j'ai fait. Moi, j'étais terrassé par un certain Pierre Dorian qui est imbattable.
Ah, ben Pierre, c'est un cador. Ouais. C'est un cador, évidemment.
Moi, j'ai pas besoin de réviser. Moi, je suis tellement.
Non, mais toi, alors.
Ah, mais t'es bon, toi.
Stephen,
bon, c'est vrai.
Il fait pas tous les jours le vrai kickadi. Il fait le kickadi. Enfin, là, il peut plus le faire depuis le confinement. Mais le kickadi dans la marche. C'est-à-dire qu'après le kickadi, il faut le savoir, à la rédaction d'RMC, tout le monde, l'after Kikadi, tout le monde se réunit. Et là, je peux dire que ça dépote. Hein. Et Stephen, il est pas mal. Il est surtout bien pour poser les questions, d'ailleurs. Il remplace. Un jeu que suivra avec beaucoup d'intérêt, j'imagine, notre coach à nous, Roland Courbis. Salut Roland.
Salut les amis. Salut. Moi je suis supporter, je choisirai mon poulain, hein, et puis je vais voir un petit peu.
Tu pourras parier sur Stephen ou sur Denis.
Ouais, bon, mieux Stephen. Hein,
moi j'ai une grande jument, Roland.
Paris sur moi. Par contre, vous avez engagé un top chef, là, j'ai vu à l'émission, là. Vous avez remplacé Yves Candebord par Pierre Amiche.
Ouais, c'est formidable. Ouais. Ah ouais, il est pas mal, hein, t'as vu, il est bien. Mal, mais même si moi, le céleri, je suis moyen, ouais, il m'a dit que
moi,
c'est...
Moi, j'adore.
T'adores ça,
moi, j'aime bien, moi.
Ouais, toi, t'aimes bien
céleri,
tout ce qui est sain, évidemment, Denis, on sait. Oui. Alors, Stephen, Denis, Roland sont là. Nous allons donc débattre avec eux dans un instant. Mais de quoi, Guillaume, en gros?
La Bundesliga, du championnat d'Allemagne qui reprend ses droits la semaine prochaine. Premier gros championnat européen à reprendre. Loïc Tanzi sera avec nous en plateau pour les toutes dernières informations. Et puis, nous serons en Allemagne tout à l'heure également avec Sophie Serbini. Est-il bien sérieux de remonter sur un ring à 53 ans? Ça aussi, on va pouvoir en discuter. Les rumeurs vont bon train autour d'un improbable retour de l'ancien champion des poids lourds de boxe, Mike Tyson, qui pourrait remettre les gants dans un but caritatif. Ce retour est-il plausible, envisageable? On vous dit tout dans cette émission et puis on parlera d'un autre immense champion, Michael Jordan, la star la plus en vue pendant le confinement avec ce documentaire qui lui est dédié sur Netflix, The Last Dance. Comment expliquer qu'à 57 ans désormais, eh bien le basketteur américain déchaîne toujours les passions. On se posera la question, il est plus vieux de 4 ans, Michael Jordan.
Très bien, voilà pour le programme. On attaque donc par le foot. Si la Ligue 1 ne reprendra donc pas avant fin août, nos amis allemands, eux, vont pouvoir regoûter, je le disais, aux joies des matchs de football et du championnat allemand dès la semaine prochaine. Guillaume, l'Allemagne, bien moins touchée, faut le rappeler, que les autres pays européens par l'épidémie, a décidé de faire redémarrer la Bundesliga.
Oui, exactement. En Allemagne, c'est un petit peu plus de 7000 décès liés au Covid-19 et c'est Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a débloqué la situation, si j'ose dire. Le championnat d'Allemagne va bien reprendre la semaine prochaine avec une première rencontre le 16 mai entre Dortmund et Schalke 04. Loïc Tanzi est avec nous en plateau. Loïc, cette reprise du football en Allemagne va se faire dans des conditions particulières.
Salut les amis, oui, la Bundesliga qui vient de connaître une journée importante. Les joueurs ont pu s'entraîner hier pour la première fois collectivement depuis l'arrêt de la compétition le 31 mars dernier. Une avancée majeure avant la reprise du championnat le 16 mai prochain, alors que l'entraînement restait limité jusque-là à des petits groupes de 8 joueurs. En attendant le 16 mai, les clubs de Bundesliga mettront leurs joueurs en quarantaine, chacune dans un hôtel de leur ville. Les stars du championnat s'entraîneront donc le matin dans les centres d'entraînement avant de rejoindre les établissements établissements hôteliers pour le reste de la journée. Sans être entièrement privatisés, les hôtels vont réserver au moins un étage aux joueurs et aucun contact ne pourra se faire avec le reste de la clientèle. La Ligue allemande espère ainsi éviter toute nouvelle contamination avant le week-end prochain. En complément, les joueurs seront testés tous les 3 jours et en cas de test positif, le joueur sera mis en quarantaine et le reste de l'équipe retestée dans la foulée.
Très bien Loïc, tu restes avec nous. On va accueillir dans un instant Sophie Serbini qui est journaliste française installée en Allemagne, qui est notamment la correspondante de SoFoot et d'ESPN. Auparavant, juste un petit tour de table avec nos grandes gueules. Roland, ta réaction à la décision allemande, ouais, elle est risquée ou elle est logique pour toi cette décision?
Décidément, je suis jamais d'accord avec rien, dans le sens que je trouve les Français impatient et que j'ai toujours pas compris qu'on n'ait pas attendu un petit peu de voir ce qui se passait du côté du virus, du côté de nos voisins et tout, puisqu'en plus de ça, nous avons la chance de voir des Allemands pressés de reprendre après 8 jours seulement d'entraînement collectif, d'après ce que j'ai entendu. Je pensais que les Allemands allaient reprendre, mais début juin, et que le mois de mai servait justement à se préparer, à bien regarder un petit peu ce qui se passe. Mais eux, ils sont tellement empressés d'être les premiers et que toute la planète les regarde, que bon, ben,
Précipité, c'est ça, en gros.
C'est même ça, je trouve ça prétentieux.
C'est dangereux, dans
le sens que nous, c'est d'une extrémité à l'autre. Nous, le 28 avril, on envoie tout en l'air. Et eux, ils reprennent le mi-mai. Ouais. Bon, c'était une chance de plus pour nous, pour voir justement ce qui se passait et voir aussi quelles décisions nous aurions dû prendre, puisque la nôtre, j'espère, puisque maintenant, du côté de la France, appelons un chat un chat, on va espérer que les Allemands réussissent pas, puisque sinon on passe pour des cons.
L'ambition de la Bundesliga, c'est de reprendre le 16 mai pour terminer le 27 juin, parce qu'il veut à tout prix terminer avant le 30 juin pour les questions contractuelles.
Je suis d'accord, mais 15 jours de préparation, c'est important. Tu vas pas m'expliquer que ça sera une catastrophe. La catastrophe sur le plan financier, sur le plan sportif et tout, si tout le monde reprend, parce que j'ai l'impression aussi, j'ai entendu ce matin que les Espagnols avaient décidé aussi de reprendre, mais le mi-juin. Donc, je pense que si ça se terminait, allez, 15 jours plus tard, et que ces 15 jours, justement, on les gagne dans la préparation du mois de mai, que le mois de mai serve à se préparer et non pas à démarrer un championnat, il me semblerait pour moi que ce soit plus logique. Mais bon, il y a peut-être des choses qui m'échappent.
Ouais. Denis, ta réaction, est-ce que tu partages l'analyse de Roland?
Je comprends ce que dit Roland, on en parle depuis des semaines. Après, moi, je suis contre le fait qu'ils aient repris. Parce que
j'ai pas changé ma position, excusez-moi.
Oui, je sais, moi, j'ai pas non plus changé ma position. Je pense que c'est raisonnable. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, que ça se passera bien pour eux. Parce que, effectivement, après, nous, on va passer pour des cons. Mais bon, je trouve logique que la France ait pris cette décision-là. Je sais qu'à Roland, on n'est pas d'accord. Mais après, sincèrement, reprendre un championnat 8 jours après d'être sorti d'un déconfinement, c'est complètement ahurissant, dans le sens où forcément il y aura des blessés, il y aura des dégâts. Et alors en rugby, n'en parlons pas, parce qu'il faut un mois en rugby, donc moi ça c'est pas pareil. Mais là, même si tu vas me dire il y a moins de contacts en foot, mais il y aura des blessés forcément. Donc moi je suis
totalement. On sait rien ça.
Mais d'accord, on sait rien.
On sait
mon avis. Hein.
Non, mais d'autant plus que les blessés, on constatait quand même avant le virus qu'il fallait quand même se pencher autant en rugby qu'en football sur le nombre de blessés qui augmentait systématiquement toutes les semaines, tous les mois, tous les années.
Après, pour moi, c'est toujours délicat. Je pense qu'il faudra arrêter de comparer les situations. Les situations sont différentes d'un pays à un autre. L'Allemagne n'a pas le même rapport, n'a pas vécu le même drame que nous, on peut avoir vécu. Je crois qu'on a 25 000 décès. Eux, on en a eu que, si je peux me permettre l'expression, que 7 000. Ils n'ont pas ce rapport-là à la dramaturgie de la pandémie. Donc, j'ai toujours la naïveté de croire que le gouvernement a les meilleures réponses que nous, parce qu'ils sont plus au courant, plus à même des faits de ce qui se passe dans leur pays. S'ils prennent cette décision-là, c'est qu'ils ont connaissance de causes que nous, on n'a pas, et que ça devrait bien se passer. Maintenant, en tant que fan de sport, je vais être très content de regarder des matchs de Bundesliga. Et même s'il y a très peu d'entraînement, ça veut peut-être dire qu'on aura des matchs incroyable, avec des retournements de situation, avec des défenses peut-être pas super au point, et on verra des buts et on va s'éclater. Et ouais, je suis sûr que Roland et Denis, la semaine prochaine, vous allez être devant votre écran pour regarder du foot, parce que vous allez être content de revoir du foot.
Il va reparier, Roland, c'est pas pareil. Il va
tu peux parier en live en regardant les matchs.
Ça, on verra.
Bon, messieurs, on va accueillir Sophie Serbini, qui est donc correspondante en Allemagne du magazine SoFoot et également d'ESPN. Elle est journaliste française et elle est avec nous en direct d'Allemagne. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Sophie, bonjour. Déjà, le sentiment général en Allemagne autour de cette reprise de la Bundesliga, est-ce que ça provoque des débats en Allemagne où tout le monde est d'accord et content que ça reprenne dans une semaine ?
Alors, on ne peut pas vraiment dire que tout le monde est d'accord. La question qui fâche plus que la reprise au point de vue sanitaire, c'est le fait qu'on décide de jouer les matchs à huis clos. Beaucoup de gens voulaient que la saison soit annulée parce que si on peut pas avoir de supporters, on peut pas avoir de match en Allemagne. C'est un peu ça la philosophie. Il y a un sondage qui a dit que 50% des Allemands étaient contre une reprise parce que ça voulait dire une reprise sans fans. Après, sur la question sanitaire, on n'est pas du tout dans le même environnement en Allemagne qu'en France. On est beaucoup moins, je pense, paniqué parce qu'il y a beaucoup moins de morts. Et du coup, c'est vrai que ça donne pas le même état d'esprit. Aussi, ce qui était clair, c'est que la Bundesliga allait reprendre. Du moment où ça s'est arrêté, c'était sûr que ça allait reprendre. C'est ce qu'ils ont martelé tout le monde. Donc, je pense que ça surprend personne. Après, est-ce que ça contente tout le monde ? Pas forcément.
On se dit quoi ? Que disent ceux qui essayent d'analyser un petit peu cette reprise du championnat en Allemagne, Sophie, que c'est finalement les considérations économiques qui ont pris le pas sur les conditions sanitaires, si j'ose dire ?
Oui, on parle beaucoup évidemment des questions économiques. Après, c'est vrai que les dirigeants de club ici, ils s'en cachent pas tellement. Tu arrives parce que le directeur général du Borussia Dortmund a fait le tour des plateaux télé pendant un mois de rang pour expliquer qu'il fallait jouer notamment pour des raisons économiques. Donc c'est vrai que tout le monde sait que c'est entre autres pour des raisons économiques, même si il y avait un accord de toute façon qui avait été trouvé avec Sky, qui est le principal diffuseur de la Bundesliga, pour le versement de la tranche, même si la Bundesliga ne reprenait pas. Donc la Bundesliga aurait pu, même économiquement, passer d'une reprise, même si certains clubs commençaient à être un petit peu avoir des problèmes financiers, notamment Schalke 04, qui était parmi les gros clubs le seul qui était quand même en danger financièrement.
Ouais. Donc là, ils vont pouvoir récupérer 300 millions d'euros quand même. Hein. C'est pas une toute petite somme, Sophie. Ouais. Hein.
Bah oui.
Non, c'est sûr. Après, le football allemand se porte quand même relativement bien. Et c'est vrai que même chez les petits clubs, par exemple à Fribourg, qui a un des plus petits budgets de la Bundesliga, le responsable financier a dit que c'était pas vraiment normal que les gros clubs pleurnichent parce qu'il n'y a vraiment aucune raison que le football allemand, parce que ça ne joue pas pendant deux mois, fasse faillite. C'est quand même... C'était un petit peu exagéré.
Sophie, on a vu que les clubs et les joueurs avaient été testés. Certains tests se sont révélés positifs, donc on a écarté les gens. Et ça va se passer comme ça tout le temps, d'ailleurs. Hein. Je crois que lorsqu'il y aura des joueurs ou des membres du staff qui seront testés positifs, ils seront écartés, mis en quarantaine, mais que l'équipe ne sera pas interdite de jouer contre d'autres formations. Là aussi, c'est prendre quand même un risque important. Il peut y avoir contamination entre les différentes équipes.
Alors en fait, dès qu'un joueur sera testé positif, il sera mis lui-même en quarantaine de son côté et toute l'équipe sera retestée à nouveau juste avant le match en fait.
D'accord.
Il
y a une période de latence, une période d'incubation qui peut aller de 6 à 10 jours ou même à 14 jours je crois. Donc là, même si on reteste tous les jours, il y aura la possibilité que les gens soient quand même en possibilité d'infecter
contaminé.
Les autres.
Ouais, il y a des cas positifs.
Contaminés. Et ils sont pleins. Et pour le coup, ils s'en cachent pas. Quand il y a eu cette semaine la DFL qui a annoncé que 10 joueurs avaient été testés positifs, le médecin en charge de la task force a dit c'est tout à fait normal. On s'attendait à ce que des gens soient testés positifs. Pour l'instant, ils partent du principe que le risque est moindre parce que les joueurs sont plus ou moins isolés. C'est entre guillemets le discours pour l'instant le discours officiel prôné par la DFL.
Puis bon, le fait d'être positif chaque fois qu'il y a ce débat, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on est testé positif, on va mourir.
Tu risques de contaminer d'autres personnes qui peuvent effectivement avoir des problèmes.
Mais d'accord, dans tous les commentaires que l'on fait, on fait, et je trouve ça logique, on fait des commentaires négatifs dans le cas. Et si par exemple, pour éclaircir un petit peu cette sombre situation, j'étais en train de vous dire, et si au moment où on se parle, ce virus était en train de disparaître? Et de ne plus exister à la fin du mois de mai, c'est pas impossible non plus.
T'as vu ce qui s'est passé en Dordogne là? Il y a une centaine de personnes qui assistent à des obsèques. Il y en a 9 qui sont tombés malades. Donc pour l'instant, il a pas l'air de disparaître comme ça, le virus.
En plus,
malheureusement, on est tous à le souhaiter, on est tous à le désirer. Mais il faut pas prendre nos désirs pour des réalités. C'est bien le problème.
Excusez-moi, qu'on soit prudent. Ok, mais qu'on soit un petit peu optimiste de temps en temps, ça fait pas le droit.
Non mais heureusement, Roland, on a le droit. Mais quand il y a des cas positifs, il y en a aussi qui vont l'être. On dit qui sont infectés mais qui sont pas déclarés.
C'est asymptomatique.
Eh ben, tu as forcément des cas qui vont l'être. Donc Roland, c'est à un moment donné, on ne sait pas où aujourd'hui. On ne maîtrise pas ça.
Je me suis peut-être mal exprimé. Le football, il ne faut pas qu'on passe pour des gens différents. Il ne faut pas qu'on passe pour, c'était le terme dernièrement, pour des gens exceptionnels. Ok, pas de problème. Mais essayons quand même de réfléchir que c'est pas seulement un sport pour les footballeurs professionnels, c'est un métier. Eh ben, on reprend. Ok. Et on a la même inquiétude. Eh ben, on va être mis après en quarantaine. On a la même inquiétude que celui qui va prendre le métro pour reprendre son métier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant qu'il a pas disparu, dans 3 semaines, on prendra toujours les mêmes précautions et tout. Et s'il y a un joueur qui est positif, eh ben, il sera écarté. Ça me paraît tellement logique.
Je comprends ton raisonnement.
Roland, t'as a priori un petit peu plus de contact sur un terrain de football que dans les transports en commun, quand même.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Ouais, mais bon, quand je vois certaines images.
Ouais, quoi que sur la 13, ça peut se discuter, ouais, c'est pas
quand
faux.
Je vois certaines images que j'ai vues dans un avion, dans la rue, à la terrasse de. Sincèrement, je sais pas où c'est qu'il y a le plus gros risque.
Ouais. Sophie Serbini, toujours avec nous en direct d'Allemagne. Sophie, les matchs vont être diffusés en clair, hein, je crois, notamment le derby de la Roure qui va susciter toute l'attention samedi prochain.
Oui, les deux premières journées seront diffusées en direct. Le multiplex, alors pas tous les matchs, hein, le multiplex de 15h30. Il se trouve que le derby de la Roure est toujours programmé en multiplex pour des raisons de sécurité. Du coup, effectivement, le derby de la Roure sera en clair, mais ça sera effectivement que les deux premières journées. Il y a des discussions aussi pour que la dernière journée, qui elle se dispute en multiplex total, soit elle aussi diffusée en clair.
Bon, les Allemands vont se jeter sur leurs écrans pour suivre.
C'est ça, ils doivent s'attendre à des cartons d'audience, non?
Pas seulement les Allemands. Au niveau pub, c'est la planète entière qui va regarder l'Allemagne.
On sait ça, Sophie, sur les cartons.
C'est juste pour revenir sur ce que disait Roland, c'est vrai que c'est aussi pour ça que la Bundesliga reprend, hein, il faut pas se leurrer. Ils savent très bien que s'ils reprennent avant tout le monde va regarder le championnat allemand, qui est pas forcément le championnat le plus regardé en Europe hors de ses bases. Donc c'est une pub énorme, ils le disent pas ouvertement, mais c'est clairement le calcul qu'ils font.
On le dit pour eux.
Après, moi, je sais pas, moi, mais j'en reviens à Andrew. Moi, le huis clos, ça me plaît absolument pas. Boire un match à huis clos, je
suis désolé. Mais d'accord, tu préfères rien avoir, toi. Tu veux rien avoir.
Ah oui, je préfère rien avoir. Ben, on sait qu'ils le font par rapport au droit TV. Ben,
oui, Denis, quand tu es devant ta télé et tu regardes les tribunes.
Non, mais c'est l'ambiance. Roland, je suis pas d'accord avec toi. Non, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance.
Mais quand tu es devant ta télé, ça change rien. Évidemment, je te taquine. Mais l'ambiance, si par exemple tu me fais choisir entre rien du tout comme match et un match à huis clos, ben, je réfléchis même pas une seconde. J'ai choisi le huis clos.
Ah, c'est vrai qu'on s'était posé la question avant le match entre le PSG et Dortmund. Finalement, passé les premières minutes, tout le monde est rentré dans
le match. Régalé.
Hein, mais t'as l'impression, régalé, d'accord. Mais évidemment que j'ai regardé, mais je me suis régalé parce que je suis fan du PSG.
Et alors, il y a des gens qui sont fans de Dortmund.
Sincèrement, à des moments, t'as l'impression que t'es dans la cour d'école. Je te le jure, quand tu vois la télé, tu
sais bien.
Eh bien oui, mais si c'est pas le PSG, je ne regarde pas une seconde le match.
Après, Denis, il y aura des débats qui seront très compliqués.
Et je
m'y attends et tout. Non, sur les avantages qu'il peut y avoir pour certaines équipes, oui, certains contextes,
d'être à huis clos
et pas à huis clos.
Évidemment.
Ça aussi, t'inquiète pas qu'on en débattra.
C'est pour ça d'ailleurs que les dirigeants stéphanois ne sont pas très chauds pour disputer la finale de Coupe de France face au PSG, parce que évidemment à huis clos ça change tout. Alors qu'avec le peuple stéphanois, l'ambiance mise par les supporters, ça pourrait permettre de déniveler.
Tu vois, mais bizarrement, là, je suis pas d'accord avec eux. Le huis clos, je pense qu'il y a pas les avantages.
Ah oui, d'accord. Bon, ok.
Ouais, je ne sais pas ce qu'en pense Roland, mais
j'en pense tout simplement que j'aimerais, tu vois, avant que je puisse disparaître de cette planète, avoir au moins fait comprendre un truc, c'est qu'une finale, ce n'est pas un match comme un autre. Une finale, c'est un événement. Et une finale, c'est pour ça que depuis plus de 20 ans, j'essaie de faire comprendre que c'est pour clôturer une saison de football, une finale. Une finale, c'est la moitié d'un stade avec les couleurs des supporters, l'autre moitié des couleurs de l'autre équipe, c'est le président de la République, c'est les personnalités qui sont dans les tribunes. Ça, c'est sûr que c'est surtout pas le huis clos pour une finale. Mais nous, une finale, on a même fait l'exploit, nous, une finale, de le mettre au début.
Pour démarrer.
On met une finale au début. C'est magnifique.
Denis, à huis clos, pas à huis clos, de toute façon, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, on connaît le résultat, grand, non?
Oui, bien sûr.
Et alors, c'est quoi le résultat pour vous deux, là? C'est quoi le résultat?
On l'a vu il y a deux ans. Rennes avait battu le PSG il y a deux ans, c'est ça? Ouais.
Ah, l'année dernière.
Merci Sophie Serbini d'être venue. Pas facile de prendre la parole avec cette bande de fous joyeux. Merci Sophie en tout cas de nous avoir renseigné. Et tu vas pouvoir te régaler. Elle va pouvoir bosser toute la semaine, Sophie.
Merci Sophie
pour ce match et pour la reprise du championnat. Tiens, juste cette petite remarque sur le hashtag RMC là, tu ne t'es pas fait que des amis, Roland, avec tes prises de position. Rib nous dit, quand j'entends des discours comme celui de Roland Courbis, je sais pourquoi il va y avoir une deuxième vague. Ça me rend fou, nous dit-il. Voilà, dans les dents. 12h27.
Il a certainement raison.
On espère qu'il a tort, surtout. Parce que nous, on n'en veut pas la deuxième vague. 12h27, nous, on veut bien, en revanche, revoir Guillaume Mike Tyson sur les rings. Ce serait pas beau, ça.
Ce serait pas mal, hein. 53 ans, les nouvelles qui concernent Tyson ne passent jamais inaperçues. L'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Proche d'un retour, on pose la question, on vous explique tout. Juste après une courte pause, il est midi 27 sur RMC. À tout de suite.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.
RMC Mobilisation Générale. Plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
12h29 sur RMC, Mobilisation Générale, c'est jusqu'à 13h. Dernière partie de l'émission avec nos grandes gueules qui nous ont rejoints, Denis Charvet, Stephen Brun et coach Courbis. Il est considéré à juste titre comme l'un des plus grands et des plus spectaculaires boxeurs de l'histoire. Mike Tyson, premier poids lourd à avoir unifié toutes les ceintures de champion du monde, envisage un retour sur les rings, annonce étonnante qui a provoqué, Guillaume, l'immense excitation de tous les passionnés de boxe.
Ouais, nos grandes gueules, on se rend compte effectivement qu'on parle beaucoup, on voit beaucoup de chose circuler sur internet en ce moment sur Mike Tyson. On évoque un retour, pas un retour classique pour l'ancien boxeur américain qui a tout de même 53 ans aujourd'hui. On va tenter d'y voir plus clair avec Lucas Vinois. Lucas, pourquoi ces rumeurs autour d'un éventuel retour de Mike Tyson?
Tout part d'un live Instagram, et ça y est, la rumeur Mike Tyson était lancée. L'américain a remis les gants, il s'entraîne et il a déclaré vouloir remonter sur un ring. Mais attention, il ne veut pas reprendre la compétition. L'ancien boxeur de 53 ans souhaite disputer des combats d'exhibition afin de venir en aide à des œuvres caritatives. 2 heures de cardio par jour, 1 heure de vélo, de tapis roulant, de la musculation. L'homme s'entraîne réellement, il faut le dire, et sa volonté de combattre à nouveau n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Pourquoi? Puisque Brian Amatruda, promoteur australien, est prêt à proposer $1 million pour organiser un combat en Australie. On parle d'un adversaire connu, Sonny B. Williams, rugbyman néo-zélandais, double champion du monde avec les Blacks et boxeur professionnel champion WBA international en 2013, la catégorie juste en dessous, la grosse ceinture. Son dernier combat date de 2015. Le dernier combat de Tyson, c'était en 2005. Ça remonte, ça fait 15 ans. L'opposition pourrait avoir lieu dans un stade de 10 000 ou de 30 000 places au beau milieu de combats professionnels avec une jolie carte. Mike Tyson, on le rappelle, c'est 58 combats, 50 victoires, dont 44 par KO. Plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe et surtout premier lourd à avoir unifié les ceintures WBC, WBA et IBF.
Et quel âge son adversaire?
Pardon, Roland?
son adversaire, le rugbyman,
il a repoussé l'idée de Sonny Bill Williams. Je crois qu'il y avait Vander Holyfield également, s'est porté
57 ans.
Vincent Moscato aussi, c'est parti.
Oui, Vincent Moscato. Bah, ils ont à peu près le même âge, hein, ce sera un combat de grand-père. Tyson de retour sur les rings. Messieurs, avant d'ouvrir le débat pour savoir ce que vous en pensez, déjà, ça représente quoi pour vous, Tyson? Je m'adresse aux plus vieux, ceux qui l'ont vu justement sur les rings. Si Guillaume, tu t'étais.
Mais tu sais que tout gamin, moi j'aime beaucoup la boxe, tout gamin. Il y a des combats qui étaient diffusés d'ailleurs à l'époque sur des grandes chaînes de télévision.
Mais c'était en pleine nuit, c'était au petit matin.
En pleine nuit, mais je me rappelle le Tyson Holyfield, la morsure d'oreille, par exemple, 97 de mémoire, où j'ai regardé ça en direct, si je dis pas de bêtises.
Enfin, c'était donc quelqu'un qui. La fin de la carrière de Tyson.
Les grands combats, effectivement, moi je les ratais pas parce qu'il se passait. Tu savais qu'avec ce mec-là, il allait toujours se passer quelque chose. La morsure d'oreille en est une parfaite illustration.
Ou même le jour où il se fait taper par un inconnu, comment il s'appelait déjà,
Buster Douglas à Tokyo, sa première
C'était une histoire de Rocky, hein, en gros.
Exactement. Donc ça m'a passionné.
Moi c'était un monstre
Denis,
pour moi.
Denis, ouais, pour toi, t'es en perte dans la génération qui a suivi Tyson.
Un phénomène, mais on se levait la nuit pour le revoir. Moi, je me souviens, j'étais avec l'équipe de France en Uruguay, à Montevideo. On s'était levé quand il avait battu Spinks. Ça a duré 35 secondes le combat, je crois. Ouais. Et la peur de Spinks quand il le voit débouler, quand le gong sonne, c'est un truc qui m'a toujours marqué à vie, quoi. Il y avait un côté animal chez Tyson, et puis c'est devenu une légende. C'est pour ça qu'après on va en parler, mais moi je trouve vraiment.
Il y a beaucoup d'observateurs qui disaient que ce mec-là arrivait à gagner des combats avant même que le combat ne commence.
Oui, pour revenir sur ce que tu disais sur le ring, d'affronter Tyson, son short noir, il était dans une tenue très austère. Mais alors, quand tu montais sur le ring, tu regardais, tu voyais son regard, Roland, et tu partais en courant, hein, en gros.
Non, puis c'était son gabarit et sa façon de boxer. C'est sûr que ça pouvait faire peur.
Ouais. Steve,
il n'y a qu'un truc qu'on regrette, c'est qu'il est perdu après, à la fin de sa carrière. Il n'a pas fait les efforts. On sait qu'il est revenu pour 2-3 combats qu'il a perdu.
Oui, mais c'est souvent le cas des boxeurs. Hein.
Oui, souvent, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'était vraiment un gars qui était imbattable.
La tentation du comeback pour les boxeurs, elle est plus forte que tout. C'est un truc incroyable. On va en débattre dans un instant. Juste, Stephen, ton avis sur Mike Tyson, pour toi, ça représente quoi?
Des souvenirs d'enfance. Mon père venait me chercher pour me réveiller, pour regarder les matchs avec lui la nuit. Jean-Claude Bouty aux commentaires. Des feelings incroyables. Et puis cette impression de surpuissance dans chaque coup qu'il mettait. J'ai l'impression qu'il mettait sa vie dans chaque crochet, dans chaque uppercut. C'est un monstre. Et d'ailleurs, après on parlera de Jordan. J'ai une petite anecdote très sympa entre Mike Tyson et Jordan que je vous raconterai tout à l'heure.
D'accord. Oh, mais tu vois,
magnifique.
Ça, c'est un beau teasing. Ça,
teasing. Quel teasing. Bravo. Alors, quel boulard. Mais t'as vu le boulard, non, mais le mec il t'en fout plein la gueule, tu vois, le matin là.
Alors le problème aujourd'hui, c'est que Tyson, c'est plus tout à fait le même que dans les années 90. Il a 53 ans, l'âge d'être grand-père comme Denis Charvet. Âge vénérable pour un boxeur. Est-ce que son pari vous semble intéressant, ou alors justement il est encore une fois la preuve que les boxeurs ne savent pas résister à l'envie du comeback? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous excite de le revoir sur un ring?
Mais non, mais moi en deux mots, j'ai pas envie. Moi, j'en ai parlé au Moscato Show parce que justement pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est que moi ce mec, je l'idolâtrais parce que tout d'un coup ça représentait un super champion, un mec indestructible et qui était dans la force de l'âge. Aujourd'hui, tu vas retrouver un mec, même s'il est en forme, même s'il s'est mis en forme et tout, à 50 maros, t'es plus le même, t'es pas le même homme. Et tout d'un coup, tu vois un mec à 50 maros revenir sur le ring. Mais non, c'est pas Tyson. Et ça me dérange. Voilà, ça me dérange. Je sais très bien que derrière il y a du pognon sûrement, il y a du marketing, il y a l'envie de, je sais pas, mais moi ça me
des choses caritatives aussi, Denis, on peut le rappeler, parce qu'il veut boxer. Il disait qu'il voulait boxer pour les gens qui n'avaient pas d'argent, parce que
comme dit Vincent, écoute-moi Vincent, il a raison, il y aura un peu pervu comme il dit, et il y aura de l'oseille derrière, c'est sûr.
Ouais, mais c'est peut-être pour faire ça derrière, on sait pas.
Oui, d'accord, il ne prendra pas lui, tu crois qu'il va pas me prendre lui? Non, mais
là quand on parle et qu'on débat justement sur le virus et l'inquiétude du virus. Là, on peut avoir l'inquiétude pour sa santé, ouais. mais à partir du moment où c'est fait avec un casque, dans une situation d'exhibition, et qu'en plus de ça, Denis, ça peut, lui, le remettre sur les rails et être sérieux dans sa vie, alors que bon, il a souvent dérapé, et qu'il reprenne quand même la vie d'un sportif pour être présent dans cette exhibition, moi je pense que ça peut être positif.
Alors, Vincent Moscato, il te dit
que le virus. Hein.
Roland, moi, Vincent me dit que casque ou sans casque, tu prends des coups pareils. Hein. Donc, j'entends ce que tu me dis, mais il y a toujours un risque.
Hein. Il ne faut pas le faire monter sur le ring face au champion poids lourd actuel.
Là, tu ne le mets pas contre Joshua ou Deontay Wilder en ce moment. Hein,
ouais,
il
vaut mieux éviter quand même, hein, parce que
t'es pas. Mais non, mais moi, t'as. Non, mais attends, c'est pas bien compris. Il remonterait sur un ring pour essayer d'être un nouveau champion du monde.
Son adversaire se met
d'accord avec lui et on voit comme si c'était les Harlem Globetrotters.
Alors là c'est pire. Ce que tu me dis, Roland, c'est pire. C'est encore plus dégueulasse.
Pourquoi?
Bah parce que je
si tu ramasses de l'argent pour des œuvres caritatives.
On en revient à faire du catch, quoi. Comme ils font aux États-Unis d'ailleurs, les mecs qui font du catch, voilà, c'est ça. C'est mais la démonstration, le côté démonstratif,
à 57 ans, tu veux faire quoi? Tu peux pas faire un combat normal?
Mais c'est pas ça que je veux dire, voilà, j'ai pas envie de le voir, moi. C'est tout, c'est juste personnel.
Toi, tu veux rien voir. Tu veux pas voir le championnat allemand, tu veux pas voir Tyson, je suis sûr que t'as pas regardé le documentaire sur Jordan. Tu fais quoi de ta vie?
Je suis un passionné, je respecte le sport. Voilà, c'est bon,
on lui a pas précisé si le combat de Tyson c'est à huis clos. Hein.
Denis, je t'apporte mon soutien. Voilà, ce côté de pas voir quelque chose de pathétique et conserver le souvenir d'un des plus grands boxeurs de l'histoire. C'est vrai que voilà, s'il fait cette exhibition, voilà, en termes de spectacle, on peut aussi se poser de la question, est-ce qu'on va se lever à 3h du matin pour regarder ça?
Roland, est-ce que tu as vu McGregor contre Mayweather? Tu l'as vu ou pas?
Oui.
Ça t'apporte quoi? Est-ce que c'est du sport? Bon, moi, c'est pas du sport.
C'est du business, ça, Denis.
Je l'ai regardé avec curiosité parce que justement, les deux boxes qui sont totalement différentes, je m'imaginais pas McGregor en train de gagner. Évidemment, je l'ai même pas vu mettre un coup de
poing. Mais c'est ça, en fait. C'est que tu vas regarder ce spectacle par curiosité et non pas pour assister.
Mais ce n'est pas du spectacle.
Alors, de la curiosité. Je suis désolé. De voir à quoi Tyson ressemblerait sur un ring à 53 ans, s'il garderait le même short noir, s'il a gardé les mêmes abdos, s'il tape aussi fort. J'ai vu quelques vidéos d'entraînement.
Les mêmes chaussures.
Moi, Paris a pris cher quand même.
Ouais. C'est les chaussures qui me plaisaient.
Les chaussures, oui.
Faire Tyson contre Stallone.
Tu vois, c'est comme. Regarde, on va parler de Jordan là. C'est comme si Jordan aujourd'hui revenait et qu'il fait un match exhibition. T'as envie de voir Jordan
comme si Denis Charvet remettait le maillot de l'équipe de France. T'es un peu plus âgé que Tyson, mais pas beaucoup plus. Est-ce que toi, tu te sentirais de reprendre une carrière et même pour un match exhibition? Est-ce que tu en fais des matchs exhibition de temps en temps?
Mais t'es fou, jamais. Mais même à toucher, j'ai arrêté le toucher pour te dire, j'ai tellement peur que si un mec me touche, il me fasse mal. Non, mais faut arrêter de plaisanter. D'abord le rugby c'est pas le foot. La boxe c'est très dangereux, c'est pas ce que je veux dire. Mais le rugby tu peux pas. Mais c'est même pas envisageable. Au moins je comprends pas la signification d'un retour comme ça dans la tête de Tyson.
C'est pour une œuvre caritative.
Il fait une pub à la télé. C'est une star. Il file la pognon de la pub. Il la file à une œuvre. C'est plus simple. Quoi.
Je sais pas. La pub avec à nouveau Tyson déguisé en boxeur, je pense que rapportera beaucoup plus.
Bon, bref, vous n'êtes pas convaincu, quoi. Vous n'avez pas envie de. Vous n'allez pas vous lever.
Mais si, Stéphane,
tu vas te lever, toi, la nuit ou non? Moi, je vais me lever. Moi, je vous le dis.
Si combat. Non, je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas me lever.
Tu vas pas te lever.
Alors, moi, je vais le regarder le lendemain.
Mais si on parle de ça, si on parle de tout ça, ce n'est pas aussi un mauvais signal pour la boxe actuelle de se dire que si on est en train de s'exciter sur un retour de Tyson à 53 ans, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la boxe actuelle? Est-ce qu'il n'y a pas de mec qui fait kiffer comme ça?
Alors, rappelez-vous qu'à l'époque où Tyson régnait, eh bien, le retour de George Foreman avait suscité là aussi l'excitation de
tous. Il avait 40 ans, il était bedonnant, il était plus boxeur,
et il était revenu et ça avait suscité les mêmes débats. Même si tu as de grands champions, les champions du passé, eh bien, te rappellent justement un peu, c'est la Madeleine de Proust. Donc tu reviens, t'as envie de les voir, tes grands champions. Si Jordan revenait sur un terrain de basket, t'auras envie de les voir, même si c'est juste one shot. Je te dis pas de refaire toute une carrière.
Je suis pas d'accord.
Mais c'est faux, c'est les champions, tu les aimes les voir dans la lumière, quand ils sont en pleine forme, dans la maturité, au moment où ils sont. Mais c'est vrai.
Non, mais toi, t'es anti-vieux, de toute façon.
Borg était revenu sur un tournoi de tennis et ça m'a fait mal au cœur, il était mauvais.
Ah, catastrophique. Tu as raison. Il avait toujours la raquette en bois.
Et tu vas voir quand Federer va revenir après le confinement. Stephen, quand Federer va revenir après le confinement, ça va être terrible pour toi aussi.
Par contre, j'attends l'histoire. Est-ce que tu peux nous donner ton histoire entre Tyson et Jordan?
Vas-y, Steve.
Bah, je la donne après, non?
Sur le tu la donnes après. Bon, allez, on la donne après, puisqu'on va évoquer le cas de Michael Jordan dans un instant, puisque vous ne voulez pas revoir Mike Tyson.
Le lendemain, pas le soir, à 3h du matin. On verra
si, avec une bonne campagne de communication autour de ce combat, après quelques belles vidéos, on voit Tyson démolir ses sparring partners, si vous n'aurez pas envie de le revoir sur un ring. Juste one shot, je dis pas, reprend toute sa carrière. Mais un petit combat comme ça, moi ça m'excite. 12h43 sur RMC. Michael Jordan, Guillaume, lui aussi reste une idole indéboulonnable. La preuve avec les chiffres d'audience de son documentaire, ça cartonne partout dans le monde.
Ça cartonne effectivement énormément. On va en parler dans quelques instants. Il partage quelques points communs aussi avec Mike Tyson, un code de popularité d'une certaine époque, son compte de banque aussi à une certaine époque. C'est peut-être plus le cas pour le boxeur. En tout cas, on va évoquer le cas de Michael Jordan dans quelques instants et de l'excitation qu'il y a autour de ce documentaire. Midi 43, on se retrouve dans quelques instants sur RMC.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.
RMC Mobilisation Générale. Plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
12h44, la dernière ligne droite dans cette mobilisation générale du samedi avec Guillaume Laniel et avec nos consultants, notre dream team, nos grandes gueules, j'allais dire Buster Douglas, non, c'est Denis Charvet, faut pas les confondre quand même, hein. Même si Denis Charvet a un petit côté Rocky quand même quelque part. Denis Charvet, ouais. Stéphane Brun et Roland Courbis qui sont avec nous. On évoquait il y a quelques instants le comeback possible de Mike Tyson sur les rings de boxe, le comeback Michael Jordan n'y pense pas, Guillaume Laniel, près de 17 ans après avoir quitté les parquets de la NBA, il continue quand même de fasciner petits, grands, vieux et même les plus jeunes.
Il faut dire qu'il avait déjà fait deux comebacks lui, donc il va peut-être s'arrêter là effectivement, mais plus de 15 ans après sa retraite sportive, le plus célèbre des basketteurs américains fait l'objet d'une série documentaire intitulée The Last Dance, diffusée en France depuis le 19 avril. Cyril Méjean, notre spécialiste basket, nous a rejoint. Salut Cyril.
Bonjour tout le monde.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette série fait en ce moment un véritable carton.
Ah oui, c'est un carton, 9 millions de spectateurs en moyenne pour ESPN. Alors les chiffres de Netflix, on les a pas, hein. Netflix ne communique pas sur ces chiffres. Mais en tout cas pour ESPN, c'est 9 millions pour les 4 premiers épisodes en moyenne, avec 6 millions sur la première diffusion en direct et environ 3 millions pour tout ce qui est replay. C'est le plus gros succès de l'histoire d'ESPN, puisque avant c'était 3,6 millions pour un documentaire sur Bo Jackson, qui était un athlète qui avait été élu All-Star à la fois en baseball et en foot US. Donc c'est vraiment un carton, et c'est un carton puisque c'est repris par beaucoup de monde. Il y a beaucoup de podcasts, soit aux États-Unis, soit en France. Stephen en fait avec Nicolas Batum et ses amis de First Team. Donc tout le monde en parle. C'est le documentaire le plus recherché, le plus commenté, le plus regardé, le plus distribué dans le monde actuellement depuis son lancement. Et puis ça a un impact sur plusieurs choses, et dont une qui va te plaire à la fin, Chris. Alors déjà, les ventes de produits dérivés de tout ce qui est rétro, hein, des vieux maillots des Chicago Bulls de l'époque, sont bien sûr en augmentation. Il y a maillot de Jordan des Jeux Olympiques de 1992 qui a été vendu de
la première Dream Team, la vraie
Dream Team qui a été vendu à $216,000.
C'est Roland qui l'a acheté.
Le jeu vidéo NBA 2K que tous les fans de jeux vidéo, pas que basket, jouent, a une hausse de 131% dans l'utilisation des équipes rétro, donc des équipes de l'époque des Chicago Bulls.
Est-ce qu'on peut acheter ces Air Jordan, les premières qu'il avait et qu'il a remis justement?
Il y a toujours des.
Il faut faire un crédit par contre.
Ouais,
c'est très cher. Est-ce que ce modèle a été réédité, tu veux dire, il y a toujours
des rééditions. Toutes les Jordan, elles ont été rééditées. Les Air Jordan 1 ont été rééditées plusieurs fois dans plein de coloris différents. Il y a un maillot des Bulls de l'époque qui avait été remis en vente par l'équipe entière à 450€ avec un beau package. Et puis, il y a un site de vidéo pour adultes qui a une recherche particulière. Carmen Electra, l'ex de Dennis Rodman, dont on parle dans l'épisode 3. Et au niveau des recherches par rapport à son nom, on est passé de 1500 à 1,7 million de requêtes concernant Carmen Electra.
Ouais, allez, encore.
Il y a une adresse IP chez Christophe Cessieux. Une connexion rose sur Carmen Electra.
Je sais pas quel âge elle a, mais elle est bien conservée, Carmen, quand même. Alors, elle a un peu de maquillage sur le visage, quand même. Hein, ouais,
il y a 3 heures de travail, je pense. Hein,
mais moi, j'adorais les soirées de Dennis Rodman. Hein. Ça avait l'air d'envoyer
On voit dans le documentaire, qui est dans la partie qui lui est concernée, il part à Phoenix pendant une semaine avec l'accord du club et il emmène toutes ses copines.
À Vegas,
ça picole. Et il revient, il s'entraîne et il est aussi bon sur le terrain, quand même.
Ça lui a servi en fait pour repartir en avant par rapport à sa carrière et par rapport à sa motivation.
Voilà. Bon, alors moi, je n'ai pas trop la culture basket, mais je peux vous dire que je suis tombé dedans et j'ai adoré cette série. Elle n'est pas tout à fait terminée. Je crois qu'il reste encore deux épisodes.
Il reste quatre.
Mais franchement, c'est très très bien foutu. On en parlait ce matin avant l'antenne avec Guillaume. Le seul problème, Guillaume, c'est peut-être il y a des comebacks, des retours en arrière, c'est un peu compliqué, mais autrement storytelling.
Non, il y a plein de choses passionnantes. La face sombre, on va y revenir, de Michael Jordan. Mais effectivement, je ne sais pas ce qu'en pense Cyril, Stéphane, peut-être. Je trouve ça un peu déstructuré. La construction est un peu étrange parfois, avec un peu trop de flashbacks. On est censé être sur la dernière saison 97-98, qui est la dernière saison de Jordan avec les Bulls. On repasse au 80. Oui, mais en fait, on se rend compte que la série à la base devait être sur cette dernière saison. Et en fait, on se rend compte que c'est un prétexte pour nous parler de toute la dynastie des Chicago Bulls. Je trouve que c'est parfois un peu déstabilisant.
C'est aussi une série qui a pour vocation d'expliquer aux néophytes du basket. C'est pas une série qui s'adresse aux grands spécialistes, et ils sont obligés de revenir en arrière pour expliquer comment Jordan a transformé la ville de Chicago entièrement, où étaient les Bulls avant passées derrière.
Je suis d'accord, Stéphane, mais les néophytes peuvent s'y perdre. C'est ça que je te dis.
Moi, je connaissais en gros l'histoire des Bulls de Jordan, mais j'ai découvert l'histoire et je me suis passionné pour ce documentaire. Et effectivement, tu comprends tout.
C'est logique dans la construction d'un documentaire d'avoir plusieurs personnages et des sous-personnages.
Mais parce que toi aussi, tu es un spécialiste documentaire.
On a fait la série sur Nashville toute la saison, donc tu es obligé d'introduire des personnages et de les présenter. Ouais. Et ce qu'ils font dans l'épisode 1, le 2 et le 3.
Ouais, avec
Guillaume, moi je trouve justement qu'il est très très bien monté, parce qu'au contraire, il y a plein de personnages, des protagonistes comme ça qui reviennent, notamment Stephen, aide-moi, celui qui détestait Isala,
Isaiah Thomas.
Il y a une interview de lui qui est assez incroyable, il revient régulièrement dans le documentaire. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Je suis néophyte aussi, je suis pas comme Stephen, mais j'ai trouvé ça, ce qui m'a impressionné, c'est que Jordan, il n'est pas humain, quoi. Tu sors du documentaire, tu dis, ce mec, on comprend qu'on est tous différents. Et quand tu le vois à lui, tu comprends que t'es encore plus différent, quoi. Qu'il y a des mecs qui sont différents de toi, mais qui sont beaucoup plus forts que toi.
Ouais, c'est vrai que la personnalité de Jordan, c'est un champion, comme tous les champions, évidemment, un ego surdimensionné. Mais c'est pas un bon mec, hein, quand même, quand tu.
C'est un compétiteur. Mais Stéphane était pareil, il peut en parler, hein.
Ouais, quand même.
C'est pour ça aussi que ce documentaire a mis beaucoup de temps à sortir, parce que Jordan avait peur que ça abîme son image, et j'ai envie de dire que son image elle est renforcée, même parce que oui, il avait une addiction au jeu. Mais est-ce qu'on peut parler d'addiction quand vous êtes multimillionnaire, quand lui joue 50 000 € au casino? C'est 50 € pour nous, donc je suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça.
Jordan, c'est un peu le charme des riches, quoi.
un petit peu, mais là où c'est un sportif exceptionnel, c'est qu'il avait un rythme de vie qu'on est à des années-lumière d'imaginer aujourd'hui d'un sportif professionnel. Il était en vadrouille en permanence. 2 heures avant un match, il se tapait un barreau de chaise dans sa voiture. Il voyait l'équipe adverse sortir du bus. Et 2 heures après, il mettait 55 points. Aujourd'hui, les mecs, les grandes stars, elles ont une hygiène de vie. Lui, je suis pas sûr que son hygiène de vie soit irréprochable. Ouais, il a golfé 4 heures avant un match. Il a le casino la veille jusqu'à 4 heures du mat. Mais si.
Il a pas picolé. Il s'est pas drogué. Il a pas picolé pendant sa carrière, à part des barreaux de chaise.
Il n'a pas picolé. Mais barreaux de chaise, aller au casino, sortir la veille des matchs pour aller claquer.
Quand tu bois pas, c'est pas grave. Quand tu bois pas, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai.
Voilà le spécialiste qui parle.
Roland, tu peux en parler. Non, mais c'est vrai, quand tu bois pas.
C'est bon, tu peux aller jusqu'à 4h du matin, c'est pas un problème.
Jordan, c'est vrai que c'est pas un agneau, on voit bien. Mais pour arriver, je pense qu'à l'époque, Stephen, c'était une rockstar. On s'imagine pas
Bien sûr, c'était une rockstar.
Et c'est ça qui est formidable, c'est que le mec, il arrive quand même à rester concentré et à être au top niveau. Mais c'est ce qui le fait encore plus fort. Et oui, c'est ça.
Parce que même en dérapant dans son sérieux, dans le côté diététique et tout, il arrivait quand même à être un phénomène. Ouais. Je dis quand même.
Et Roland, je sais pas, t'as regardé le documentaire, toi, Roland?
Pas encore, mais on en a tellement parlé que je vais regarder.
Il y a une scène notamment, moi j'ai vu, c'est dans l'épisode 5 ou 6, les deux qui sont sortis lundi, il y a une scène où il est à moitié confiné dans son hôtel. Il parle de ce rapport qui est particulier à la célébrité. Tu le vois descendre de son hôtel et tu vois que le mec à ce moment-là est aussi connu que le pape, parce que tout le monde l'attend dehors. Ce côté fascinant, Roland, tu le comprends, toi, le fait que on a l'impression qu'on va avoir des gamins de 15 ans dans la rue aujourd'hui. Ils connaissent Jordan, alors que Jordan, faut pas oublier, il a quasiment 60 ans aujourd'hui.
Ben si tu veux, moi je vais pas être un exemple, mais je vais quand même te donner cette précision. Le basket ne m'a jamais particulièrement plu. Mais bon, je te prends en compte, j'ai des potes qui jouent, donc je regardais. Mais quand j'ai commencé à regarder Jordan, et qu'il y avait les images, ce qui n'était pas à une certaine époque comme maintenant, mais il m'a fait aimer le basket.
Ouais. C'est lui qui nous a fait découvrir le basket.
Hein. Ça s'appelle une légende, tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup comme Pelé aujourd'hui. Il a joué il y a 50 ans, Pelé. Imagine.
Magic Johnson, juste avant lui aussi.
La grande différence avec Pelé, c'est qu'aujourd'hui, tu demandes à un garçon de 14, 15, 16 ans de te parler de Pelé, il peut pas. Aujourd'hui,
Pelé, c'est 70,
un garçon de 14, 15, 16 ans.
Il a arrêté en 70, quand même, c'est beaucoup plus vieux, il y a 50 ans.
Ce documentaire-là.
Karim Abdul-Jabbar, je suis pas sûr que les gamins de 15 ans le connaissent. Et Larry Bird non plus. Plus tu vas en arrière, plus c'est compliqué. Michael Jordan, c'est pas si vieux que ça, quand même.
Je suis d'accord avec toi, mais la semaine dernière, j'avais mon fils de 9 ans qui était là. Je lui disais, je regarde The Last Dance. Il m'a dit, ah oui, papa, c'est le documentaire sur Jordan, la légende du basket. Je lui dis, mais où t'as appris ça? Toi, il me dit, j'ai entendu partout. Tu vois, à 9 ans, mon fils, il me parle de Jordan.
C'est pour ça que ça s'appelle une légende. On peut avoir l'anecdote avant qu'on se quitte, parce qu'à un moment donné, on va se quitter, on n'aura pas l'anecdote.
Ah oui, l'anecdote.
Non, c'est 1988, Tyson et Jordan sont au sommet de leur carrière, et deux garçons qui ne s'apprécient pas, et il y a une star du football américain, Richard Dent, qui fait une soirée pour son anniversaire, et Tyson et Jordan sont là, à la même table, et Tyson enchaîne les cocktails, et à un moment donné, parle mal à Jordan, parce qu'il vient de se séparer de Robin Givens, qui est une actrice, et qui est la femme de Tyson, et il soupçonne Jordan de se taper Robin Givens, donc à un moment, il se lève, et il veut détruire Jordan, qui lui a très peur, et c'est le premier moteur de Mike Tyson et d'autres invités dans la soirée qui retiennent Mike Tyson, et c'est peut-être le seul moment de sa vie où Jordan a eu peur d'un adversaire.
Il en fallait bien 20 pour retenir le Mike Tyson de l'époque.
Ah ouais, non mais là je pense que 88, Tyson, il aurait fait peur à tout le monde. Jordan, évidemment.
Et raconte-nous quand t'as vu Jordan à Paris il n'y a pas longtemps, là, ce que t'as picolé là. Raconte-nous un peu la soirée là.
Écoute, moi pas d'alcool, c'est pour ça que je suis encore un athlète de haut niveau, c'est que je bois pas d'alcool.
Que t'es menteur.
Non, cette soirée elle était merveilleuse. J'ai vu des bouteilles arriver à cette soirée-là que je ne connaissais même pas l'existence, et je ne savais pas qu'une bouteille d'alcool pouvait être si chère en boîte de nuit.
Mais Stephen, sérieusement, quand tu le vois, parce que moi je ne l'ai jamais croisé, donc je ne peux pas t'en parler, tu le vois, c'est quoi? Ça te fait quoi de le voir en vrai?
Denis, je vais être très honnête avec toi, il est arrivé, j'ai tremblé. Il est plus petit que moi, mais sa présence, t'as l'impression qu'il fait 2m50, un charisme incroyable. Alors, il a toujours des gros problèmes de vêtements, Michael Jordan. Il s'habille toujours avec des pantalons larges et des vestes à lui, les bons tuyaux. Mais rien que sa présence, je suis resté silencieux pendant 30 minutes à le regarder. Il devait se dire d'ailleurs, mais qui c'est ce mec là qui me regarde? J'étais complètement fou.
Il doit
avoir l'habitude. Voir à 30 centimètres.
Très bien, messieurs, il est l'heure de nous quitter. Voilà, on a parlé de grands champions. Merci Cyril d'être venu nous parler de Michael Jordan.
Merci messieurs.
Et voilà pour aujourd'hui. Guillaume, on se retrouve demain. On retrouvera également Denis et Roland. Stephen, lui, va aller regarder la suite du documentaire et il reviendra la semaine prochaine. Va s'entraîner pour le RMC Sport Game. Merci les garçons. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Christophe Drouet, la boîte à souvenirs qui revient. On rappelle, c'est un programme qui a été diffusé lors des fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, sur le divan de JC, on va retrouver Sarah Pitkowski. Et puis ensuite, le RMC Sport Show Revival. On se retrouve demain, 10h-13h, pour la dernière de Mobilisation Générale. À demain. Ciao.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.